Vous êtes bien sur Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Le 47e anniversaire de la Journée de la Terre, un jour de commémoration pour le peuple palestinien. Le 30 mars 1976, 6 Palestiniens ont été tués lors de manifestations de protestation contre la saisie de terre par le gouvernement israélien. Un anniversaire dans un contexte de dégradation de la situation sécuritaire. Nous écouterons le député PCF des Bouches-du-Rhône, Pierre Daréville. Le comité du Conseil de l'Europe pour la prévention de la torture dénonce les mauvais traitements infligés aux migrants. Il dénonce aussi les refoulements aux frontières européennes. La réforme des retraites, la semaine prochaine, sera marquée par une rencontre entre l'intersyndicale et la Première ministre et par une 11e journée de mobilisation. Les syndicats demandent le retrait de la réforme, demandent également de la gauche. Nous écouterons le député écologiste Sébastien Pétavi. Un drame de la route au Maroc, 5 personnes sont mortes, 27 blessées dans un accident près de Rabat. La mission Falorni a rendu son rapport. Elle pointe les limites de la loi Leonetti sur la prise en charge de la fin de vie en France et plaide pour le développement des soins palliatifs. Le député Modem, Olivier Falorni, sera l'un de nos invités. Les Palestiniens commémoraient ce jeudi le 47e anniversaire de la Journée de la Terre. Le 30 mars 1976, des policiers israéliens ont tué 6 citoyens palestiniens d'Israël et en ont blessé 49. Des personnes qui protestaient contre l'expropriation de terres palestiniennes par le gouvernement israélien. Un anniversaire dans un contexte de dégradation de la situation dans les territoires palestiniens. Le député PCF des Bouches-du-Rhône, Pierre Daréville.
Il y a une grande inquiétude parce que chaque jour qui passe, voit les territoires des colonies s'étendre avec des habitantes et des habitants qui sont chassés de chez eux et avec une voie vers la paix qui s'amenuise. Donc une inquiétude qui s'accroît de jour en jour et je pense qu'il faut avoir les initiatives à l'échelle internationale de très haut niveau pour essayer de faire en sorte qu'on retrouve le chemin de la paix et de la justice. En Israël et en Palestine. Je crois qu'on ne peut pas laisser la situation dériver de cette façon-là, avec effectivement un gouvernement israélien qui est de plus en plus marqué par l'extrême droite et qui, je crois, provoque des dégâts considérables, avec une contestation même, y compris interne, d'un certain nombre de ces réformes qui se fait jour. Mais cela étant dit, du point de vue du processus de paix, on est en train de régresser. Et donc je crois que ça appelle vraiment des initiatives fortes de notre pays, mais à l'échelle internationale, pour essayer de sortir de cette situation et de recréer les conditions d'une paix véritable et du respect du droit international.
Et est-ce que ça pourrait appeler des initiatives du Parlement français également ?
Oui, je pense que ça appelle des initiatives du Parlement. Et nous avons nous-mêmes, au nom de notre groupe, déposé une résolution sur ce sujet-là. Et j'espère qu'elle pourra être débattue très prochainement. Dans les semaines qui viennent à l'Assemblée nationale pour que l'Assemblée nationale se prononce et qu'elle prenne position en ce sens clairement comme notre pays l'a déjà fait et doit le faire en prenant les initiatives qui vont avec pour dire que nous voulons la paix en Israël et en Palestine, que nous voulons le respect du droit international, que nous voulons la justice, nous voulons le droit pour les peuples. Et je crois que ce qui se passe en Palestine est une blessure pour toute l'humanité. Et donc, voilà, on ne peut pas s'habituer à ce qui se passe en Palestine et plus largement dans ce territoire du Moyen-Orient.
Et en cette Journée de la Terre, il est important de rappeler l'illégalité que constitue la colonisation.
Oui, bien sûr, la colonisation, c'est un fait illégal qui a été condamné par des résolutions de l'ONU. Et donc, le droit international, c'est très précieux. Lorsqu'on bafoue le droit international, on met en danger la paix sur toute la planète. Parce que, évidemment, il y a des résonances un peu partout dans le monde qui peuvent voir le jour. Donc, voilà, je pense qu'il faut redonner de la force à nos institutions internationales. L'ONU a été beaucoup affaiblie, sa voix porte trop peu. Et puis, peut-être que les différents États, gouvernements, pays du monde devraient mieux s'y investir pour en faire le lieu où nous construisons notre avenir commun. Et donc le droit international, c'est l'outil qui doit permettre cela. Et donc lorsqu'il y a des résolutions qui sont adoptées, qui sont votées, il ne faut pas qu'elles soient adoptées pour la forme, mais il faut qu'elles soient adoptées pour être appliquées. Donc voilà, effectivement, elles sont particulièrement bafouées, le droit international est particulièrement bafoué en Israël et en Palestine. Et donc le droit du peuple palestinien, en l'occurrence, est mis en cause par ces colonisations qui portent atteinte au droit international. Et donc... Je pense que ça mérite que des initiatives comme la Journée de la Terre puissent se dérouler de manière à attirer l'attention, effectivement, pour faire en sorte que des actions soient menées et que non seulement on ne s'habitue pas, mais qu'on crée les conditions de sortir de cette crise et de pouvoir enfin vivre en paix dans cette partie du monde et de se réconcilier et permettre que finalement chacune et chacun puisse... vivre, avoir droit au bonheur.
Le député PCF des Bouches-du-Rhône, Pierre Daréville. 5 personnes ont été tuées, 27 autres blessées dans un accident de la route au Maroc. Un minibus a percuté un arbre après que le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule. C'est arrivé dans la commune rurale de Brachoua, à une cinquantaine de kilomètres de Rabat. Les blessés ont été hospitalisés, 12 sont dans un état grave. Une enquête est ouverte. Le Parlement turc doit voter ce jeudi la candidature de la Finlande à l'OTAN. La Turquie sera le dernier membre de l'Alliance Atlantique a ratifié l'adhésion du pays nordique. Le président des Émirats Arabes Unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, a nommé son fils aîné, Cheikh Khaled Ben Mohammed Ben Zayed, prince héritier d'Abu Dhabi. Le souverain d'Abu Dhabi est traditionnellement le président de la fédération depuis que celle-ci a été fondée en 1971. Une attaque dans le nord-ouest du Pakistan. 4 policiers ont été tués par un engin explosif déposé au bord d'une route. Une attaque revendiquée par les talibans pakistanais. Le comité du Conseil de l'Europe pour la prévention de la torture dénonce les mauvais traitements infligés aux migrants. Il dénonce aussi les refoulements aux frontières européennes. Le comité précise s'être rendu dans des postes de police et de garde frontières, des centres de rétention et zones de transit le long des principales routes migratoires vers l'Europe. La réforme des retraites en France, la semaine prochaine, sera marquée par une rencontre entre l'intersyndicale et la première ministre, mais aussi par une 11e journée de mobilisation. Les syndicats demandent le retrait de la réforme. Une demande également de la gauche, le député écologiste Sébastien Pétavy.
Ça devient très compliqué la situation actuelle. Je vois mal en fait l'issue là, de la posture du gouvernement et du président, parce que à part conduire en fait à de l'humiliation ou de la colère, il n'y a pas d'issue. Donc aujourd'hui, la seule issue, c'est le retrait du texte et de pouvoir changer radicalement les méthodes démocratiques, parce qu'il faut que le Parlement fonctionne. Ils nous ont dit sur les retraites, bon, on va pouvoir discuter notamment, par exemple, sur l'index senior. J'ai fait 500 propositions d'amendements sur l'index senior. Tout a été refusé, tout. Donc on connaît en fait leur méthode là aujourd'hui. Ils ne veulent pas le faire. Le problème, il est là. Il faut changer radicalement parce qu'il y a un sérieux souci et on voit les conséquences qui sont graves. La colère qu'il y a aujourd'hui est quand même très importante. On le voit avec certains débordements et c'est pas possible que ça continue comme ça. Il faut vraiment qu'ils entendent le message. Maintenant, il y a une colère qui est très importante. Cette colère existait avant la présidentielle. Les résultats de la présidentielle et quand il n'y a pas de débat, quand on se retrouve avec un président qui est élu pour faire barrage quand même à Madame Le Pen. Donc il y a quand même toutes les conditions démocratiques aujourd'hui ne sont pas réunies. On se retrouve quand même à chaque fois avec un taux d'abstention qui est très important. On se retrouve avec un gouvernement ici qui n'a pas de majorité absolue. Donc il y a quand même énormément de signaux et la réponse, elle est médiocre. Elle est médiocre et il y a un niveau de tension important. Il faut l'entendre. C'est grave aujourd'hui ce qui se passe.
Le député écologiste, membre de la NUPES, Sébastien Pétavy. La mission Falorni a rendu son rapport. Elle pointe les limites de la loi Leonetti sur la prise en charge de la fin de vie et plaide pour le développement des soins palliatifs. Lundi prochain, la Convention citoyenne réunie pour réfléchir sur la mise en place d'une aide active à mourir doit remettre son rapport à Emmanuel Macron. Entretien avec le député Modem, Olivier Falorni.
La mission que je présidais avait une vocation, c'était évaluer la loi actuelle sur la fin de vie, la loi dite Claeys-Leonetti. Donc il ne s'agissait pas d'ouvrir, un débat sur faut-il légaliser l'aide active à mourir ou pas en France. Il s'agissait de faire une analyse la plus exhaustive possible de la loi actuelle. Et cela fait donc maintenant 7 ans qu'elle a été votée et le Parlement ne l'avait jamais évaluée. Donc nous en tirons un certain nombre d'enseignements. Pour résumer, 3 enseignements majeurs. Le premier, c'est que l'accès aux soins palliatifs, qui devrait être un droit pour tous, c'est en tout cas ce que proclame la loi, n'est pas assurée. Il n'y a pas une offre de soins palliatifs suffisante dans ce pays et il faut évidemment renforcer le nombre de lits en soins palliatifs en France. Parce que l'accès universel aux soins palliatifs n'est pas assuré aujourd'hui. Et c'est inacceptable. Deuxième point, les droits des patients étaient, j'allais dire, caractérisés par deux notions de droit que sont les directives anticipées d'une part, la désignation de la personne de confiance d'autre part. Voilà, ces deux possibilités aujourd'hui ne sont que très faiblement utilisées parce que les Français ne connaissent pas bien la loi, parce qu'ils ne connaissent pas bien leurs droits et que les directives anticipées sont encore floues pour beaucoup de gens. Pour certains, ils n'aiment pas aborder des sujets comme la mort, hein, ça reste un sujet tabou pour certains. Et donc, on s'aperçoit que peu de Français font leurs directives anticipées, ce qui est un problème quand un malade se retrouve en situation de ne plus pouvoir s'exprimer et donc, du coup, dire ses volontés. Et puis, le troisième point, c'est la sédation profonde et continue, qui a été la grande nouveauté du texte Claeys-Leonetti, c'est-à-dire que c'est de plonger une personne dans une forme de coma, d'arrêter tous les traitements, donc arrêter l'hydratation et la nutrition, en attendant que le décès survienne, puisque le but, c'est une sédation irréversible, en attendant le décès. Et donc là, on voit qu'il y a un très faible recours à cette sédation profonde et continue, pour un grand nombre de raisons que je ne pourrai pas vous détailler, mais nous nous interrogeons sur cette pratique qui aujourd'hui suscite beaucoup d'interrogations et qui explique sans doute que cette sédation profonde et continue jusqu'au décès ne soit pas appliquée ou en tout cas très peu.
Se fait-elle en accord avec le patient ou la famille du patient ?
Elle se fait dans la majorité des cas avec l'accord du malade et éventuellement de la famille. Mais je rappelle que c'est le malade qui décide pour lui-même et que seule une personne de confiance désignée peut se substituer à la parole du malade quand il ne peut plus exprimer clairement ses intentions. Il y a un bémol à apporter, c'est-à-dire que le collège médical peut estimer nécessaire de faire une sédation profonde et continue même si ça n'est pas une volonté exprimée par écrit par le malade, parce que cela pourrait relever dans certains cas de l'obstination déraisonnable, de l'acharnement thérapeutique.
Vous mettez en lumière, Olivier Falorni, la nécessité de développer aujourd'hui les soins palliatifs. Cela doit se faire parallèlement à l'examen d'une nouvelle loi sur la fin de vie. Ces deux éléments sont parallèles.
Oui, ils sont parallèles à mon sens. C'est-à-dire que le rapport que nous avons remis aujourd'hui, il aborde très largement la question des soins palliatifs. Et moi, je suis un ardent défenseur des soins palliatifs. Je suis député de La Rochelle, je me suis battu pour qu'on ait une unité de soins palliatifs à La Rochelle, parce que c'est absolument nécessaire pour les malades en fin de vie qui souhaitent pouvoir être accompagné et partir sans douleur. Donc, pour moi, en tout cas, il n'y a pas d'opposition. Et d'ailleurs, je le dis depuis longtemps, il n'y a pas d'opposition entre soins palliatifs et aide active à mourir. Nous ne parlons pas dans ce rapport de l'aide active à mourir. Ce que je peux constater, j'allais dire de façon factuelle, pour que cette opposition, j'allais dire, cesse d'avoir lieu dans ce pays, c'est que partout où des pays ont légiféré sur l'aide active à mourir, et il commence à en avoir beaucoup, en Europe et dans le monde. Nulle part, et ça, ce ne sont pas mes propos, ce sont les propos de la ministre déléguée à la Santé que nous avons auditionnée, partout, dans tous les pays du monde où on a légalisé l'aide active à mourir, en parallèle, le nombre de lits en soins palliatifs a augmenté. Donc l'aide active à mourir n'entraîne pas une baisse du nombre de lits en soins palliatifs dans tous les pays où on a légiféré. Donc voilà un élément factuel et qui conforte, moi, ma propre analyse, c'est-à-dire que l'un et l'autre sont possibles ensemble, en parallèle, et que c'est ensuite une liberté de choix, sachant qu'évidemment, on peut aller en soins palliatifs et à un moment parce que les douleurs sont inapaisables, parce que les souffrances sont trop insupportables, parce qu'elles sont réfractaires au traitement, eh bien, on puisse demander une aide active à mourir.
Sur l'aide active à mourir, le président de la République a récemment reçu des personnalités, des intellectuels, également les représentants des principaux cultes en France qui ont fait part de leur scepticisme sur une nouvelle légifération. Comment avez-vous accueilli cela ?
Alors, nous avons auditionné les représentants des grands cultes monothéistes. Nous avons fait 31 auditions et je crois vraiment avec une très grande diversité de points de vue, mais il était normal que les cultes soient entendus. J'allais dire les représentants des cultes, ils étaient dans leur rôle, avec un bémol en ce qui concerne les protestants, où il y a une position beaucoup plus équilibrée, parce qu'il y a des protestants qui, aux Pays-Bas, qui en Suisse, aident des gens dans l'aide active à mourir. Donc les protestants de France ne peuvent pas être insensibles à cela. En revanche, que ce soit les représentants du culte catholique, musulman ou juif, ils ont exprimé leur opposition à l'idée d'une aide active à mourir. Le représentant du culte musulman, d'ailleurs, dans une interview, avait dit « Dans notre religion, le suicide est un péché, donc il est quand même difficile d'envisager que nous puissions approuver le suicide assisté. » Donc j'entends parfaitement ce discours qui est celui du dogme de ces religions et dont ils sont les messagers. En revanche, ce que je constate, c'est que les croyants pratiquants ne sont pas toujours en phase avec la position de leur clergé. Et c'est à l'image de la société française qui s'est sécularisée et qui aujourd'hui fait souvent la différence entre une pratique religieuse, une foi intérieure et une pratique quotidienne, et puis une conception de la société, de la morale. On voit bien les différences qui peuvent exister entre les pratiquants vis-à-vis de l'homosexualité, vis-à-vis du suicide, et donc vis-à-vis de la fin de vie, qui ne sont pas forcément en adéquation avec les plus hauts responsables des religions. Donc tout cela est passionnant, parce que ce sujet concerne bien des aspects, l'aspect médical évidemment, mais aussi l'aspect philosophique, l'aspect spirituel et l'aspect juridique. Dans toutes ces dimensions, il y a vraiment, je crois, des éléments particulièrement passionnants à aborder ce sujet majeur.
Le député MoDem, Olivier Falorni. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient. Et si on en parlait à 19h et 23h, le thème de cette émission, crise sociale, crise politique, quelles solutions pour en sortir ? Alexis Bachelet reçoit Virginie Martin, politiste, vice-présidente du comité scientifique de la revue politique et parlementaire, et Philippe Moreau, Chevrolet, expert en communication. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.